Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Nous voici au Théâtre Mogador avec Erwan Leroux. Salut Erwan, comment vas-tu ?
Salut, bah écoute, ça va super bien à Paris. Pour l'occasion de la présentation de la Route du Rhum. Donc écoute, pas mal, une bonne belle journée qui vient de se dérouler.
On sent le stress et les émotions qui commencent à monter, ça commence à devenir sérieux, à se concrétiser.
Ouais, non, pas de stress, mais voilà, on sent que l'événement démarre. En fait, c'est vraiment le démarrage, là, cette journée à Paris. C'est le démarrage, l'événement est lancé et c'est le démarrage de la Route du Rhum.
Ouais, le début de l'effervescence et de, on va dire, le sprint final avant le départ, quoi.
Ouais, après on sera vraiment le stress montera sûrement d'un cran, c'est quand on sera 15 jours avant le départ et quand on sera prêt à rentrer dans le bassin à Saint-Malo, là où effectivement là ça va monter d'un cran.
Ok. Bon, de toute façon, j'ai quelques questions effectivement sur les quelques jours qui précèdent une course et sur la journée de départ. Je vais être assez curieux là-dessus vu que la course approche et qu'on publiera cet épisode, tu vois, juste après le départ, je pense.
D'accord.
Donc, tu vois, ça pourrait être sympa de faire des petites passerelles. Mais comme tu le sais, il y a une tradition sur ce podcast. Plus de 170 interviews, on pose toujours la même question, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors mon premier souvenir de sport, c'est gamin avec mes copains à jouer au foot. Ça c'est mon premier souvenir de sport et mon premier souvenir de voile de sport, c'est les balades le long des quais du môle Loïc Caradec à la Trinité-sur-Mer. Avec cette vision de tous ces trimarans géants qui étaient proches à partir sur justement la route du Rhum, il y avait Bourgnon, Fujicolor, enfin Loïc Perron, et donc ça aussi c'est vraiment la première image, c'est moi petit sur le môle Caradec à la Trinité-sur-Mer à regarder les bateaux qui étaient amarrés. À l'époque c'était des mouillages dans le port de la Trinité.
Ok. J'ai cru que tu avais commencé la voile assez tard, finalement, comparé à certains autres skippers que j'ai pu recevoir. Tu vois, je pense notamment à Alan Roura qui a vécu toute sa vie sur un bateau et qui ne connaît rien d'autre presque. Tu faisais de sport, toi, dans ton enfance, avant de commencer?
J'ai fait un peu de judo, j'ai fait et surtout du sport co.
Physique d'un judoka.
Ouais, mais non, j'ai fait un petit peu, j'ai pas grand chose, mais surtout du foot en fait. Okay. Voilà, j'étais gardien de but au foot. Bon, j'ai quand même été jusqu'à mes 18 ans, donc j'ai quand même fait un peu de foot, mais pas à très haut niveau, quoi.
Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui te retient de monter sur un bateau et d'aller naviguer plus tôt, plus jeune?
En fait, c'est la mer est un rêve, est quelque chose qui m'attire. Je vais pas dessus parce que j'ai pas de tu vois, familialement, j'ai pas personne à un bateau. Alors j'ai mon parrain qui m'emmène à partir du moment où j'ai 14 ou 16 ans, 14-15 ans.
Ouais.
Là, c'est mon parrain qui m'emmène faire un convoyage de la Trinité-Brest.
Ok. C'est pas rien.
Non, déjà. C'est pas rien déjà. Tu vois, c'est la baie d'Audierne avec les dauphins de nuit. Malade au bière vidéo dans la cabine à l'avant un peu barbouillé donc tu vois c'est mes premiers vraiment souvenirs de d'enfance où j'ai vraiment été voilà mon parrain était sous-marinier.
Ok.
Voilà. Ouais.
Donc c'est une belle influence.
Ouais donc voilà c'est lui qui m'a mis un peu sur la mer au tout premier, et puis mon oncle a suivi aussi après, à Saint-Malo d'ailleurs, puisque okay. Ma deuxième expérience bateau, c'était, je devais avoir aussi pareil 15-16 ans, et c'était avec mon oncle, et c'était après le barrage de la Rance, une balade à Chauzet dans des conditions juste dantesques. voilà, mais bon, ça
me... Je connais un peu le coin, donc j'ose imaginer
ouais,
ce que ça doit être sur l'eau.
C'est vraiment mon démarrage, et en fait, la mer m'a toujours attiré, c'est un rêve, et qu'à un moment donné, en fait, tu te dis, alors, dans ma dernière année de bac,
ouais.
Au lycée Jean Guénaud, un bac professionnel, à Vannes, notre prof de mécanique nous dit allez, on va participer à une régate. Ça s'appelle une école à bateau. Ok, super. Okay. Alors du coup, faut monter le projet. Donc là, moi j'étais, ça m'a tout de suite botté. Donc j'ai tout de suite enclenché le pas pour voir deux trois copains. Clac, comment on fait? On monte le projet, demande de financement. Clac, ok. Mmh. Et c'est parti. Et nous voilà, nous entraîner à programmer des séances d'entraînement pour faire cette régate au centre nautique des Glénans à l'île d'Arc.
Ok.
Voilà. Et donc du coup, c'est là. Et là, j'ai découvert une école de voile, les Glénans. J'ai découvert une île, l'île d'Arc. J'ai découvert le golfe du Morbihan. Ouais. Et j'ai découvert aussi mes premiers amis que j'ai toujours, mes premiers amis marins. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours le mec qui m'a fait tourner la première fois autour des bouées dans le golfe du Morbihan. Voilà. C'est Mathieu Tatibouette et on est toujours ensemble et voilà, on est encore copains aujourd'hui, donc c'est ça qui est drôle.
Une belle histoire d'homme.
Bah ouais, en plus et puis voilà, après bah il y a eu cette régate, c'était en samouraï, tu vois, c'était avec un vieux bateau, mais c'était top. Alors je sais plus quel résultat on a fait, mais sûrement pas grand-chose, mais du coup ça a déclenché chez moi le fait de dire bah là j'ai l'occasion de, j'avais mon service militaire à faire à l'époque, c'était encore obligatoire, et là je découvre l'école de voile, je découvre les Glénans, je découvre la possibilité de faire un service civil. Et là, je fonce sur l'occasion qui m'est donnée de pouvoir apprendre à faire du bateau, et grâce à ce service civil de 20 mois. Et là, bah, du coup, je fais toutes les démarches. Pareil, j'attaque alors que voilà, j'étais plutôt dédié à aller reprendre la suite de mon père et en chaudronnerie.
Oui, chaudronnier.
Ouais. Bon voilà, et donc du coup, je passe ces 20 mois au Glénan à apprendre à faire du bateau.
Ok, du coup, sous la poupe de l'armée.
Ouais, parce que c'était objecteur de conscience. Ouais. Donc on était, c'était un service civique.
Objecteur de conscience.
Objecteur de conscience, en fait, c'était en fait, il fallait faire une lettre. En fait, tu pouvais pas, tu ne pouvais pas, enfin, tu supportais pas la vue des armes et tu ne pouvais pas porter l'arme. Voilà. Okay. Donc, c'est une célèbre chanson de Renaud d'ailleurs. Monsieur le président, je vous écris parce que je ne peux pas porter les armes. Alors si jamais il y avait l'armée, il y avait la guerre, en fait, on est forcément tous réservistes, mais on serait brancardiers, en fait. On travaillerait à la Croix-Rouge.
T'en retiens quoi de cette période-là? Qu'est-ce que tu as appris?
C'est la vraie découverte d'un espace de liberté.
Vous naviguez tous les jours?
Ah ouais, moi j'ai la deuxième année, donc parce que ça dure 20 mois, tu vois, et la deuxième année, j'ai monté jusqu'à entre 30 et 40 semaines, week-ends d'encadrement.
Ok.
Donc on navigue beaucoup et tous les jours, quoi. Et en plus, moi je faisais rapidement, donc la régate ça me titille. Et donc rapidement, je commence à faire des régates à la Trinité-sur-Mer et au Croisty tous les week-ends.
Ok.
Et donc je trouve des embarquements et je navigue quoi. Et la semaine, je navigue. Enfin bon, voilà, je décroche pas, quoi. Mais c'était toujours, il y a pas eu de but de faire carrière. Il y a jamais eu un but de cacher. Enfin, ça a été toujours dans un esprit de se dire bon, j'apprends à faire du bateau. Il y a un premier step, c'était juste sortir du port, revenir au port dans des conditions météo légères. Il y a un deuxième step que tu passes, il y a un troisième. Après, au Glénan, ça va très vite. Tu deviens un moniteur, tu formes des gens, tu fais de l'encadrement. Ensuite, tu deviens chef d'escadre. Ensuite, tu deviens formateur de formateurs. Ouais. Puis à un moment donné, au bout des 2 ans, on te dit bon bah, tu fais quoi maintenant? On te propose un contrat de qualif pour passer ton brevet d'État. Bon bah là voilà, il faut foncer, il faut y aller. Voilà, moi je dis bah je continue parce que voilà, ça m'apporte encore autre chose, ça me fait progresser dans ma vie. Et je profite parce que c'est pas quand il faudra retourner au travail que, enfin, j'avais toujours gardé à l'esprit que à un moment donné il faudra retourner bosser en chaudronnerie, c'est sûr, quoi.
Ouais, pour toi c'était évident que
c'était évident que ça allait,
c'était une vie parallèle, quoi.
C'était un peu une vie parallèle, et puis j'aurais pu m'acheter des bateaux, enfin voilà, c'était pas de but de faire de la course au large mais ça commençait à voilà, et c'était 94 98 je passe mon brevet d'État, donc tu vois, c'est Laurent Bourgnon, quoi.
Ouais.
Donc je baigne là-dedans à la Trinité-sur-Mer, entre Vannes, le golfe du Morbihan, la baie de Quiberon, enfin tout ça c'est mon jardin, quoi.
Ouais.
Donc je vois les bateaux passer de temps en temps, ça commence, en tous les cas t'en prends plein les yeux, tu regardes ce qui se passe sur la route du Rhum 94, 98 et voilà, et puis bah, après le brevet d'État,
ça germe petit à petit quand même.
Ouais, c'est en train de germer, et puis après le brevet d'État, il se passe que il y a un projet, ça s'appelait c'était un projet Solo le Télégramme.
Okay.
Donc en fait, il fallait monter le projet, il fallait que tu arrives avec un bateau, c'était un Figaro 1, et il y avait une régate pendant une semaine. Et à l'époque, on était 12, il y avait Armel, il y avait Nico Troussel, il y avait, voilà, et Et au bout des 5 jours, je suis en tête de l'épreuve, quoi. On était 12, enfin, il y a aujourd'hui.
Donc c'est ta première régate.
Ça, c'est ma première vraie régate en solitaire. Enfin, ouais. Voilà, avec monter un projet pareil de A à Z parce qu'il fallait chercher un bateau. Donc j'avais trouvé un bateau en Angleterre. Enfin, voilà. Enfin, je m'étais débrouillé, quoi, pour monter le truc. Je m'étais entraîné. Et voilà, c'était la première. Après, je tombe en panne de pilote. Et puis après, je finis cinquième de l'événement. Mais, et Armel faisait deux. Et c'est Gilles Favennec qui avait gagné à l'époque. Et voilà, et c'est comme ça que je rencontre Armel, c'est comme ça que je rencontre tout un tas de coureurs aujourd'hui, Nico Troussel, et aujourd'hui, qui après d'ailleurs m'ont fait naviguer, puisque en Figaro 1, voilà, enfin, j'ai fait des courses en équipage avec eux, et donc voilà, c'est comme ça que tu rentres, en fait, tu rencontres des gens. Et
ça te tire vers le haut,
ça te donne de l'envie, tu commences à préparer des Figaro, les Figaro 1, tu rentres dans le circuit Figaro, ensuite il y a le Figaro 2 qui arrive. Entre temps, je rencontre Marc Guimaud et Marc Guimaud m'embarque en tant que numéro 1 sur son multicoque.
OK. Ouais,
et là, tu vois, on est dans les années 2000, 2001 quoi.
Ouais, voilà. ça s'est enchaîné très vite après.
Et après ça s'enchaîne parce que tu rencontres des gens, j'avais un pote qui baignait dans la Mini. Et donc du coup dans la construction d'un bateau et tout ça, donc je commence à m'intéresser au truc, et puis voilà, il y a mes épopées Mini, et puis en 2004 on me propose la Jacques Vabre. Enfin bon, après ça s'enchaîne avec les rencontres que tu peux faire,
bien sûr,
et qu'apporte ce métier, c'est des histoires d'hommes,
bien sûr. Ouais. Mais tu vois, moi ce qui m'a surpris dans ton parcours, enfin ce que j'ai admiré même dans ton parcours, c'est que bah, comme je te disais, il y a beaucoup de skippers qui ont commencé très jeunes et qui ont toujours baigné dedans. Et tu vois, moi, quand tu me parles de l'enfant qui a 18 ans ou un petit peu plus tard, qui doit monter un projet, tu vois, aller trouver des financements, trouver le bateau, probablement faire des réparations, le mettre à l'eau, tu as tout ce que tu connais bien mieux que moi, tu vois. Quand j'ai l'impression, tu vois, que quand tu fais ça très jeune, il y a un peu l'insouciance, t'es un peu bordé par les, enfin, t'es accompagné par les adultes qui t'entourent et tu te laisses porter et c'est presque facile. Toi, j'ai l'impression que t'as dû tout faire, tu vois, un peu le côté self-made skipper, tu vois. Et c'est pas décourageant, tu vois, justement, quand tu t'as un peu de retard sur les autres et que t'as plus l'insouciance, tu vois, du petit gamin qui joue au foot dans le pré et qui se pose pas la question de si demain il aura des courbatures, quoi. En gros, je fais une métaphore, mais.
En fait, non, au contraire, je pense qu'il y a des parcours atypiques. Et ça n'empêche pas d'arriver à quand même à avoir une carrière avec un parcours. Bien voilà, sûr. J'ai jamais fait la solitaire du Figaro, j'ai jamais fait la mini transat.
Ça c'est rare. Il doit pas y en avoir beaucoup hein, sur le départ
non,
de la route
sûr.
De Rome.
Non, c'est sûr que voilà, je m'interdis pas un jour de refaire la mini transat et de refaire la solitaire du Figaro, mais voilà, c'est effectivement ces deux épreuves là qui sont vraiment des épreuves. Et ça n'empêche que j'ai construit un mini, ça n'empêche que j'ai beaucoup navigué en Figaro, Figaro 1, Figaro 2, et un peu de Figaro 3 grâce à Armel. Mais voilà, j'ai les épreuves phares, j'ai jamais réussi à les faire et j'ai fait, je sais pas combien de transat Jacques Vabre, quoi. Voilà.
donc voilà, c'est
ça, mais ça montre aussi peut-être aussi un peu finalement le style de marin que je suis, et je suis plus un coureur au large. Course au large au sens propre, voilà, transatlantique, plutôt que autour de Trois-Bouées ou vraiment sur des petits parcours côtiers. Enfin voilà, ça c'est une technique pure. Voilà, moi je suis plus quelqu'un qui aime bien partir au large, faire des voilà tour du monde, transatlantique. Alors c'est aussi peut-être plus mon style plutôt que voilà que d'autres. Ouais. Finalement.
Et tu montres qu'on peut sauter les étapes et on n'est pas obligé de faire ces classes et ces gammes entre guillemets. Mais...
Non, au contraire, ouais. Je pense qu'il faut il faut de la fraîcheur. Là, tu vois, c'est marrant, mais là, tu vois, j'ai rencontré un préparateur, la Victor Champenois, qui bosse avec moi, il m'a contacté sur LinkedIn et juste avant la c'était fin juillet. Il me contacte et puis je vois open to work sur LinkedIn et puis voilà, il me laisse ses coordonnées, on crée le contact et puis c'est préparateur de bateau. OK, donc je l'appelle et puis je dis bah écoute, si t'es habité à Auray en plus tout près, je dis mais comment ça se fait que t'es libre quoi, parce qu'il y a tellement de jobs dans le truc dans le milieu que c'est étonnant. on commence à discuter, puis il me dit, bah, en fait, je suis un barman et je suis en j'aimerais bien me reconvertir et travailler dans la course au large.
Ok, génial.
Ouais, je dis, écoute, demain, on sort le bateau de l'eau, viens, et puis, bah, on verra, quoi.
Comment voilà. Ça se passe, ouais.
Il est toujours là.
Et tu lui as donné sa chance, quoi.
Ouais, ouais. Alors, non seulement je lui ai donné sa chance, mais en plus, si tu veux, il a un parcours atypique. Dans le sens où voilà, il est barman, mais n'empêche qu'il est, mécaniquement il est très fort, il est très fort en mécanique. Il s'intéresse, il est manuel et donc il a d'autres capacités et à s'adapter. Et puis c'est aujourd'hui c'est un mec que je regrette pas du tout d'avoir recruté. Et je pense que j'ai recruté une bonne personne. Ouais. Et donc les parcours sont atypiques et je pense qu'il faut laisser la chance à ça parce que ça amène beaucoup de fraîcheur. Et ça amène aussi cette ouverture d'esprit. Il faut être ouvert.
Tu valorises davantage justement ces parcours atypiques, ces parcours parfois avec des doubles projets, des triples projets, ou peut-être des personnes qui mettent un peu plus de temps à se révéler. C'est quelque chose que tu valorises même plus globalement dans ton équipe.
Bah ouais, parce que c'est de là que je viens. Enfin, je pense que il faut arriver avec ses compétences, ouais, dans une équipe, parce que ce sport, la course au large, ça reste quand même un sport d'équipe, ouais. Même si on met en avant un marin solitaire autour d'une course en solitaire, c'est une vraie course d'équipe, quoi, et que on n'est jamais aussi nombreux dans les équipes pour envoyer un mec tout seul traverser l'Atlantique.
Ouais.
Donc en fait, il faut rassembler aussi des compétences et faire monter en compétences aussi tes ressources. Et parce que il faut aussi de la mobilité, il faut aussi pouvoir faire différentes choses dans les équipes parce qu'on n'est pas non plus très nombreux.
Ouais.
Et donc voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'avoir toujours à l'idée de transmettre, en fait, finalement, de transmettre son savoir, comme l'ont fait mes autres, pas mentors, mais voilà, comme l'a fait Franck Yves avec moi, comme l'a fait Marco, comme l'a fait Loïc, parce que j'ai eu la chance de travailler un ou deux ans avec Loïc, et voilà, quand tu rencontres tous ces grands marins là, tu les écoutes, ils te donnent des choses et toi tu leur donnes des choses, parce que du coup il y a du partage et ça te fait progresser et ils font que tu deviens le marin que tu es.
Ouais, exactement. Ouais. Bah, tu vois, c'est ça que moi qui m'a plu tout de suite plus dans la voile, c'est effectivement, tu vois, ce partage et ces valeurs humaines où il y a de l'écoute, il y a aussi une forme de respect, de la seniorité, de la transmission, et de savoir l'accueillir aussi, parce que tout le monde ne sait pas accueillir toujours les conseils qu'on peut donner, et c'est, tu vois, moi c'est ça qui m'a pris, ouais, vraiment dans et ce qui fait que depuis quelques mois là je commence à naviguer avec des copains, avec le but de traverser l'Atlantique. Déjà pour nous ça serait déjà un beau rêve, mais c'est en train de se construire. Mais je vois très bien, peut-être pour les non initiés, les auditeurs qui connaissent peut-être un tout petit peu le monde de la voile. J'ai déjà fait plusieurs interviews, comme je te disais, avec des super skippers et skippeuses. Mais aujourd'hui, pour qu'on se représente dans ton équipe, il y a combien de personnes à peu près, et quels sont, on va dire, les postes clés? On va essayer d'oublier personne parce que je sais que c'est pas évident,
En fait, t'as trois équipes distinctes. T'as l'équipe technique, t'as l'équipe, ouais, de com, et puis t'as l'équipe des navigants.
Ok.
Donc ça, c'est déjà trois pôles distincts. Donc dans l'équipe technique, qui sont vraiment à s'occuper du bateau, il y a quatre personnes.
Ouais.
Donc on a un électronicien, plutôt électronique, matériel embarqué, informatique, gestion de la data. On a un.
Tu sais que c'est un gros boulot, plus le temps.
Ouais, parce que c'est accès à la perf. On a un ingénieur, pour bureau d'études et plans et tout ça.
Va beaucoup plus être peut-être sur l'aérodynamisme.
Exactement. Ouais, exactement. Tout le développement du bateau, ouais, pour essayer de gagner les petits micro-vitesses. Et, on a un mec qui fait les ficelles, ouais, et puis il fait un peu de mécanique, et voilà, puis on a le dernier qui est arrivé là, on a Victor, puis on a aussi le composite qu'on a perdu. On avait un alternant, tout, on a pas mal formé aussi, donc là on s'est séparé d'un alternant et en composite, mais faut qu'on essaye de retrouver
Ok. C'est quoi le rôle de la personne qui s'occupe des composites? J'imagine pas du tout.
Ah ben, en fait, tu casses à chaque fois. Enfin, tu casses beaucoup de choses à bord des bateaux. Et donc, en fait, comme c'est un morceau de plastique, eh ben, il faut refaire des stratifications. Voilà, il faut refaire des. Et donc, voilà, c'est vraiment important. Le bateau est fait en composite. Hein, c'est et de la fibre de verre, du fibre de carbone et de l'époxy. Et tout ça, c'est un mélange qui est pas très, qui est pas très, on va dire,
facile à manier.
Mais en tous les cas, voilà, c'est comme ça que sont construits les bateaux aujourd'hui.
Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est lui aussi qui va les manufacturer ou manufacturer les pièces ? Non, il veut juste les penser, les imaginer.
Ah non, non. Alors les imaginer, on a un bureau d'études et pour aussi calculer la structure de la pièce.
Ok.
Et puis on a des archis. On peut faire aussi appel à des extérieurs, le cabinet d'architecte. Voilà, tout un tas des calculateurs pour si c'est des pièces un peu sensibles.
Ouais. Ok.
Des études poussées en aéro comme on a fait avec par exemple avec d'autres fournisseurs, avec notre fournisseur de voile. Enfin voilà, il y a plein de c'est un sport mécanique hein, la voile qui est, tu peux vite rentrer dans la complexité du pouillem et du coup ça peut aussi vite coûter beaucoup d'argent quoi.
Ouais.
Donc voilà, donc il y a aussi ce côté maîtrise un peu, enfin tout le cas dans la classe Ocean 50 dans laquelle je navigue, on essaye de faire vraiment attention à ça et globalement aussi dans les équipes, on n'a pas d'argent, ça coule pas à flot et donc du coup on essaie vraiment de prioriser nos développements et de faire attention à ce qu'on fait quoi.
Ouais, il y a une vraie dimension de manager et de chef d'entreprise entre le budget et la performance.
Après, il y a la com, il y a au moins 4 personnes à la com, tu vois.
Ouais.
Donc, et puis dans le pôle navigant, j'ai à peu près 6 navigants. Donc, deux femmes et trois personnes.
Alors, à quoi il sert exactement ce pôle? D'ailleurs, je te remercie pour cette masterclass que tu me fais, qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite sur ma traversée. Et je salue mes copains qui vont écouter aussi. Mais ouais, à quoi sert exactement ce pôle navigant?
Eh ben, en fait, aujourd'hui, même si les techniciens, enfin, l'équipe technique navigue, pour faire des régates, pour faire le Pro Sailing Tour, parce qu'on participe, enfin, toute la classe Ocean 50 participe au Pro Sailing Tour. Eh ben, on a besoin de faire naviguer le bateau à 100%. Et donc, on a des équipiers professionnels, qui, voilà, c'est leur métier, comme moi. Et, voilà, sauf qu'ils ont pas de sponsor, ils ont pas machin. Donc, en fait, ils naviguent sur différents projets. Ouais. Et puis, bah, ils viennent et donc, on essaye de construire une équipe. Alors, ça peut être, c'est des copains, c'est des gens avec qui on, voilà. Alors, en l'occurrence, dans l'équipe navigant, j'ai celui qui dessine les voiles. J'ai un grinder, donc un mec qui tourne les manivelles, qui est très costaud, qui est Stevie.
Ouais.
On a Yann Eliès, tu vois, un mec qui va faire mon routage sur la Jacques Vabre, sur la route du Rhum, pardon. Et donc voilà, qui fait beaucoup la nave.
Ouais.
On a Pablo Del Arco, un Espagnol, et on a deux filles. De navigante qui est Audrey Augeroux, qui est une équipière barreuse et qui fait piano à bord du bateau et donc voilà, on essaye de, et Mathilde Géron qui est barreuse de tacticienne.
Donc, bravo d'avoir mis de la mixité.
Ouais, alors on essaye de effectivement d'avoir pas mal de, enfin en tous les cas d'inscrire des femmes à venir naviguer et voilà, et Audrey et Mathilde ont. Moi, j'étais très content de les avoir à bord parce que ça amène aussi beaucoup de fraîcheur.
Ouais, j'imagine. Il doit y avoir
beaucoup d'ouverture.
Peut-être un autre point de vue.
Et puis la classe, enfin, ce type de bateau s'y prête vraiment parce qu'en fait, il faut pas être un super athlète. C'est pas parce que tu vas mouliner plus vite que le petit copain à 250 watts et toi à 200 watts que ça va te faire gagner la route du Rhum, ça va te faire gagner 5 secondes sur l'envoi de la voile ou juste un déroulé de voile, ça va te faire gagner 5 secondes, mais c'est pas ça qui te fait gagner la régate. En fait, faut travailler avec sa tête, enfin voilà, c'est vraiment pas les muscles et donc ce genre de bateau de la classe Ocean 50 est vraiment très adapté aux navigatrices.
Ouais. Mais c'est des bateaux qui vont très vite. Et j'ai l'impression aussi, alors dis-moi si je me trompe, mais tu vois, pour avoir fait mes petites recherches, j'ai l'impression aussi que c'est des bateaux qui peuvent beaucoup plus facilement chavirer, peut-être, ou que des plus gros, parce qu'ils sont assez légers finalement.
Ouais, c'est sûr que quand on a mis les foils en 2016, on a On a quand même bien avancé dans le chavirage, c'est-à-dire que les bateaux, ils chavirent beaucoup moins, même s'il y en a eu, parce que les petits doudous ont chaviré pendant les 1000 milles des sables, mais donc ça n'empêche pas que c'est possible, que ça peut arriver, mais globalement les foils nous ont fait gagner en sécurité, voilà, okay. Très clairement. Par contre, on attaque plus, le niveau augmente. Donc forcément, potentiellement, il va y avoir des bateaux sur le toit, c'est sûr. Donc le risque, effectivement, de chavirer est important. La charge mentale par rapport à ça est important. Et c'est
beaucoup
niveau
plus que sur un monocoque, j'imagine.
Beaucoup plus, ouais, parce que la régate s'arrête. Et en plus, tu peux, suivant la position dans laquelle t'es, tu peux te retrouver dans des situations très délicates. Soit à l'eau, soit...
Donc dans la quille même. J'ai un souvenir d'un sauvetage de Yves Leblévesque en plein milieu de... l'océan Pacifique ou
ouais alors ou... là il avait cassé un bras, donc là c'est encore différent, mais et là oui c'est une situation pour l'instant j'espère que ça n'arrivera pas au sein de la classe, mais ouais. Les bateaux sont, on espère, costauds de ce point de vue là mais ouais. Bon, en tous les cas, il faut effectivement ce genre de casse, ça met quand même en péril grandement ta situation et, ouais. Et effectivement finalement ton temps de survie peut être c'est engagé, quoi, voilà. Ouais, en tous les cas, t'as un décompte qui commence à partir du moment où tu casses structurellement le bateau. Il y a un décompte clairement qui est engagé sur ta survie et sur ta capacité à terminer dans le radeau ou pas. Voilà, et être récupéré. Mais bon, on a les moyens à bord pour être récupéré facilement, enfin il y a tout un tas de
beaucoup progressé au niveau sécurité.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ouais, bien sûr. Et l'autre paramètre, écoute, pour aller vite, il faut être un petit peu toujours un peu à la limite de la coque centrale, un peu hors de l'eau. Et donc, il faut accepter de pouvoir naviguer, il faut accepter de pouvoir dormir dans ces conditions-là. Et là, ouais. C'est là où la charge mentale, elle est épuisante. Voilà.
Parce que tu vas extrêmement vite. Il y a une zone très fine sur laquelle tu peux.
Ouais. Et puis il faut avoir les écoutes à côté, prêtes à lâcher pour que le bateau retombe du bon côté. Enfin, ouais. Voilà, donc il y a une gestion de la fatigue et et de ta lucidité à avoir sur vraiment tout au long de la course. Et c'est ce qui fait, c'est là vraiment la clé de la performance, de si tu vas réussir à performer ou pas. Quoi.
Ok. Mais du coup, quels sont tes tips pour gérer tout ce stress, ce risque, cette charge mentale?
Déjà, il y a l'expérience. Hein. c'est pour ça que les marins, en vieillissant, c'est un
blague,
peu comme le bon vent.
Il faut de l'expérience.
Ouais, mais tu coules plus que dans d'autres sports, en fait. C'est aussi la particularité de notre sport, c'est qu'en fait, un bon marin se nourrit de ses expériences. Et donc, en fait, plus tu as d'expérience, plus tu deviens, en tous les cas, tu deviens meilleur. Ouais. Et donc pour au niveau de la perf, c'est hyper important. C'est un peu du deep learning, quoi. Hein. Donc c'est de l'apprentissage constant et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a Francis Joyon qui a gagné la Route du Rhum à 60 ans, quoi.
Ouais. Voilà. C'est incroyable.
C'est n'empêche qu'on en est là.
C'est le seul sport. C'est un des rares sports où.
Ouais. Bon, après. C'est possible. Après, il y a quand même un facteur physique aussi.
Mécanique.
Voilà. Francis est quand même un surhomme qui s'entretient physiquement, qui a peur un peu de rien. Enfin, ça reste encore un extraterrestre. Alors, je sais pas si tout le monde arrivera à son âge, à son niveau, mais en tous les cas, ouais, c'est ce qui est sûr, c'est que plus on emmagasine d'expérience et plus on gagne. En perf, quoi.
Ouais. Et quand t'es sur l'eau, du coup, en pleine course, tu mets ça de côté, tu vois, la peur, la charge mentale, tu vois, t'essayes de moins. Non, tu penses.
Non, mais
là, tu viens de me faire le. Non, je suis obsédé par ça.
Non, pas obsédé, mais en fait, c'est quand t'as plus peur, c'est très dangereux, à mon avis. Donc il faut pas être tétanisé, mais en fait il faut avoir il faut avoir un bon réglage, quoi. C'est pas pour rien qu'on travaille le mental et que et qu'on a un préparateur mental. Enfin, je crois qu'aujourd'hui il y a sur tous les skippers professionnels, j'entends, de la route du Rhum, tu dois avoir je pense qu'il y a au moins 30% des skippers qu'on est préparateurs mentaux. Et ouais, notamment quasiment tous les ultimes et beaucoup en Ocean 50. Ouais. Parce que, bah, il y a une gestion, une organisation, et ne pas avoir de stress, c'est très dangereux.
Ouais.
Ne pas avoir peur est très dangereux.
Qu'est-ce que tu bosses, toi, sur cette partie-là? Je sais pas, il y a des exercices en particulier qui t'ont fait passer des caps ou tu vois qui t'ont permis de
des routines
de débloquer,
ouais il y a des routines.
Bosser beaucoup sur les routines,
il y a des routines pour d'endormissement, il y a tu peux mettre en place des routines pour et ta lucidité, pour contrôler ta lucidité et donc te donner les alertes un peu de, donc ça c'est un entraînement qu'on fait en ce moment justement. Okay. pour travailler sur les signaux de la lucidité pour gagner encore en au fait de pouvoir aller se reposer plutôt avant d'avoir les signes, quoi.
OK. Comment tu le fais? Tu vas répéter une série de tâches et si tu l'effectues pas bien, c'est que tu es fatigué et que du coup tu dois aller te reposer par exemple. Enfin,
il faut travailler sur les signaux, les premiers signaux de qui apparaissent de fatigue. Donc déjà il faut se mettre dans la situation. C'est pour ça qu'on part naviguer 24 à 48 heures, parce que du coup tu te mets dans la situation où tu commences à avoir les premiers signaux de fatigue, et donc du coup bah ça va être tiens, qu'est-ce qui s'est passé avant?
Okay.
Et donc là tu reviens sur ce qui s'est passé et t'essayes de trouver voilà, tiens, j'ai eu ça, tiens, peut-être que ça c'est un signe. Donc voilà, et ça se travaille comme ça en fait.
Ouais,
donc après, avec l'aide d'un préparateur mental, ça va te permettre de potentiellement revenir sur une expérience par un entretien d'explicitation. Et ben, il va te faire revenir en fait sur l'expérience que t'as vécue et potentiellement, ça va peut-être déclencher chez toi. Ouais, ça va peut-être déclencher chez toi des voilà. Ah tiens, dis, ah ouais, c'était là. Je me souviens, c'était là.
Ouais. Voilà.
Et donc ça, il y a que quelqu'un de l'extérieur qui peut t'amener ça, quoi.
Ouais, c'est sûr que c'est un travail qui est pas évident à faire soi-même.
Ouais, et puis on est vraiment dans le détail.
Ouais.
Mais aujourd'hui, c'est primordial. Enfin, surtout en solitaire, et c'est vraiment la. Je pense que ton meilleur ennemi en solitaire, c'est toi.
Ouais.
Et pour tout le monde.
Bien sûr.
Donc voilà. Donc voilà. En tous les cas, faut partir avec un bon stress. Il faut gérer ce stress. Il y a pendant la course, mais il y a aussi avant la course. Il y a tout un tas d'émotions, donc il faut aussi apprendre à gérer ces émotions-là qui vont arriver pendant le village. Et donc ça, les jeunes en général, ceux qui font ça pour la première fois, soit ils arrivent à la gérer, soit ils n'arrivent pas. Donc ça dépend de chaque individu. Moi, la première fois que j'ai fait la route du Rhum, j'ai pas réussi à la gérer.
Ouais.
Donc
ça s'est traduit comment?
J'ai passé Fréhel. Je suis la bouée de Fréhel. J'étais un légume.
Okay.
J'ai le coup de bambou.
Plus d'énergie.
J'étais au fond de mon cockpit.
Et tu fais quoi à ce moment-là? Du coup, tu coupes tout. Tu dis à l'équipe.
J'ai appelé ma femme. J'ai appelé mes enfants. Et voilà, quoi. Et en fait, tu commences un peu à te dire, attends, mais là, y a beaucoup trop d'émotions. Tu pleures. Tu te dis, et puis en fait, t'es cramé.
Ouais.
En fait, t'es déjà dans les zones où faut pas aller, quoi.
Ouais.
Donc en fait, le résultat du truc, c'est en 2010, tu vois, 24 heures, même pas 24 heures après le départ, hein, t'es dans le golfe de Gascogne après Ouessant, au petit matin, le lundi matin, je suis dernier, quoi.
Ouais. Ouais, donc ça pardonne pas, quoi.
Ah ben non, c'est. Mais ça, si tu l'as pas fait une fois, tu sais pas que tu as réagi comme ça. Alors après, tu l'analyses.
Mmh.
Une fois que la course est finie, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai atterri? Donc voilà. Et puis en fait, tu t'aperçois qu'attends, là, ah, ok, là, j'ai dormi là. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y avait bamboche là. J'ai pas dormi en fait. Ouais, ok, j'ai pas respecté mon agenda. J'ai pas fait de sieste. J'ai pas machin.
Ah, ouais, j'ai fait un repas.
Ouais, voilà. Ok. Ouais. Bon, voilà. Bon, donc toute cette organisation là, finalement, toute cette expérience là, tu mets ça en place pour les événements futurs.
Ouais, finalement, c'est dans les moments un peu les plus durs, entre guillemets, que t'apprends énormément aussi sur toi-même et sur ta façon de naviguer et sur qui tu es.
Et faire d'autres sports aussi apprend beaucoup. Aussi.
Ouais. Ouais. Tu fais quoi comme autre sport, du coup, à côté?
Le fait d'avoir fait beaucoup de triathlon et un Ironman, notamment, ça m'a beaucoup aidé.
T'as fait lequel?
L'Iron Corsair.
Ok, ouais. D'accord.
Ça m'a beaucoup aidé dans la connaissance de soi, dans les signaux énergiques.
Pour le coup, là, tu
vis dans la nutrition.
Ouais.
Et en fait, tu te rends compte que, enfin, il y a vraiment plein de, notamment sur le plan nutritionnel, où tu te rends compte que quand tu pousses ton corps dans les retranchements et quand tu pousses ton corps dans des niveaux de fatigue élevés, et ben forcément si tu bouffes des McDo tous les jours, ben ça marche pas quoi.
Ben, clairement.
Donc il faut faire, enfin voilà, ton carburant c'est ce que tu manges et donc faut faire attention et tu en ressens vraiment le bénéfice ou le déficit quand tu pousses ton corps dans les retranchements, voilà, quand tu fais du sport à haute intensité et quand tu fais des triathlons, les mecs ils arrivent pas à manger ou ils terminent avec des aigreurs d'estomac. Faut pas chercher trop, hein.
Ouais, c'est vrai. Bah écoute, moi je te cache pas, j'ai fait plusieurs alphes et j'ai jamais réussi à passer justement le cap à Nice à chaque fois à cause de l'estomac. Et j'ai tout testé, je suis devenu vegan.
Est-ce que t'as fait le test des 220 aliments?
J'en ai entendu parler, je me suis beaucoup inspiré de la théorie, donc j'ai fait attention.
Mais t'es obligé de le faire.
Ok.
Si en fait c'est toi, c'est ton corps.
Ouais.
Tu peux. En fait, il y a que en faisant la prise de sang que tu vas arriver et dire là tu vas recevoir ton papier et là tu vas dire ok. Donc là t'as trois cases, c'est simple, hein, tu as trois cases et tu vas dire bon bah par exemple moi tu vois c'est le blanc d'œuf, moi j'ai des traces d'allergènes. J'ai dit, c'est que dalle. Hein. Le blé, c'est des traces d'allergènes. Et le céleri. Voilà. C'est les trois trucs. Ben là, les trois trucs, j'arrête le 6 octobre.
Ok. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour la recommandation.
Et donc, des fois, tu vas peut-être, quand tu vas recevoir ton doc, tu vas peut-être trouver un aliment et dans lequel tu vas être peut-être juste la case au milieu. Alors, c'est pas une allergie, tu vois, dans la dernière case d'allergie.
C'est un inconfort.
Mais du coup, cet inconfort-là, hein, tu vois, imagine avant
tu
mes.
Le payes cher.
Bah ouais, moi, avant mes triathlons, je mangeais des pâtes le matin avant le départ.
Ouais.
Je mangeais une pâte blanche avec un œuf.
tous les triathlètes, comme j'ai fait du triathlon, tu vois, j'ai beaucoup de copains qui font du triathlon, qui vont se reconnaître dans ton message, tu vois.
Ah non, mais. Et donc, du coup, après, j'ai arrêté ça. Ouais. Et j'ai, tu vois, trois jours avant l'épreuve, je faisais sans gluten, sans blé, et avec d'autres apports. Puis tu te fais accompagner par un naturopathe qui va t'expliquer, bah tiens là, tu vends ton nu. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Si quelqu'un a des crampes, il y a beaucoup à s'inspirer de la nutrition. La nutrition est un élément important de la performance, et peu importe le sport.
Bah, tu l'as très bien dit, c'est notre carburant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, sommeil, boire bien, bien manger, c'est déjà la base déjà pour pratiquer un sport de haut niveau. Et ça me fait très plaisir qu'on en parle justement avec toi qui navigue, parce que c'est vrai que généralement, quand je vois des skippers, on parle plutôt de nourriture lyophilisée et de la lassitude aussi que tu peux avoir sur un tour du monde ou sur plusieurs dizaines de jours à toujours manger un peu la même chose. Il y a beaucoup la notion de plaisir, mais on retrouve pas souvent ce professionnalisme-là, et ça me fait plaisir de pouvoir aborder ça avec toi en tout cas.
Ouais, alors c'est sûr que globalement la nourriture a beaucoup évolué.
Ouais.
Et là aujourd'hui, tu vois. Moi, je sais que je même sur un tour du monde aujourd'hui, tu serais capable de partir avec que de la pertisée. Donc c'est du déjà cuisiné sous vide. Donc c'est conservé en fait sous vide à chaud. C'est d'où le nom de la pertisée. Et donc en fait, t'as plus qu'à réchauffer ça au bain-marie et tu manges. Et c'est pas du lyophilisé. Le lyophilisé, ça te défonce l'estomac.
Ouais, c'est une catastrophe.
Et c'est voilà, c'est alors il faut que ça soit bien réhydraté. Si c'est bien fait, ça peut être très bon, mais il y a quand même
dans les conditions dans lesquelles vous êtes.
Ouais, ça peut être vite. Tu respectes pas forcément les temps de réhydratation, tout ça. Bon, ça peut être vite voire compliqué, quoi.
Ouais. Okay.
Bon, en tous les cas, chacun fait midi à sa porte.
Ouais, exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la recommandation du test des 220 aliments. J'en avais déjà entendu parler et effectivement, ça pourrait être la source de certains.
Il faut explorer.
Ouais, exactement. Mais ouais, comme je te dis, j'ai tenté de devenir vegan. Enfin bref, j'ai fait des trucs un peu farfelus, mais j'ai pas résolu le problème. Donc je vais aller tester. Merci, merci infiniment. T'as mentionné tes enfants. Et je me demandais, tu vois, j'ai jamais osé poser la question à un autre skipper ou une autre skippeuse d'ailleurs. À quel point on pense à sa famille quand on est sur l'eau, qu'on est dans la frénésie de la course, et que justement on commence à manquer de lucidité, qu'on commence à essayer de s'accrocher à sa performance. Est-ce que c'est plutôt une source d'énergie pour toi? Est-ce que au contraire, t'essayes de pas trop y penser parce qu'il y a une charge de risque et que ça peut commencer à te faire douter? Est-ce que c'est un peu un mélange de tout ça finalement?
Bah, nos proches sont importants dans la. Enfin, moi, ça fait partie de notre équilibre d'humain, d'individu, et donc du coup, c'est à doser avec parcimonie. C'est-à-dire, faut pas être non plus accro à, parce que du coup, on décroche de. Ça peut nous déconcentrer aussi. Donc voilà. Et puis notre famille aussi, elle est bienveillante par rapport aux événements qui se passent à terre et ce que tu reçois en mer. Voilà, je sais que pendant la tournée de Jacques Vabre, j'ai perdu mon oncle, et en fait ils me l'ont dit que à l'arrivée, et ils ont gardé ça pour eux. Ils ont décidé de pas me le dire, et je les remercie parce que ça aurait fait un déséquilibre dans la course, et ils ont pensé d'abord à finir le truc, et voilà. Donc je trouve que c'est en tous les cas, c'est voilà, il y a des choses qui se passent à terre que forcément on n'est pas forcément au courant, et donc la famille, elle est importante parce que ça filtre, en fait, hein, il y a un filtre, et donc ça nous permet de rester nous concentrés sur la perf, et en même temps, il faut quand même qu'on ait des nouvelles parce que justement ça aussi donne cette énergie et ça donne cet équilibre qui est important, en tous les cas pour. Ça dépend des individus, mais en tout cas pour moi il l'est. Donc à un moment donné, j'ai besoin de recevoir un mail de mes enfants, j'ai besoin de recevoir un mail de mes proches pour me dire voilà, qu'est-ce qui se passe, tout va bien. Voilà.
Ok. Voilà. C'est Alexia, ouais, qui me disait que grâce à WhatsApp, maintenant les marins communiquaient aussi un peu entre eux, que c'était beaucoup plus facile de communiquer avec ses proches.
Ouais.
Sur la course, ces petites notes vocales un peu, mais.
Ouais. Alors en fait, pas le son, non. Non, ouais. Pas moi, je fais pas le son parce que justement dans le son tu entends l'émotion.
Ok.
Ouais. Et
Donc tu t'en protèges un peu quand même.
Ouais. Il faut, et même tu les protèges.
Bien sûr.
Parce que dans des moments difficiles, s'ils ressentent le truc, y a un truc qui va pas. Ok. Quand tu parles avec ton routeur et que le mec dit attends là il est fatigué, là il machin parce que il te connaît, parce que ok, mais ça c'est, on est dans la perf. Mais tu peux pas le faire avec tes proches parce que à la fois tu peux ressentir l'émotion chez eux et à la fois ils peuvent ressentir l'émotion chez toi et voilà, ça, eux, ça les met dans la difficulté d'aide de quelqu'un qui manque et qui est pas là et qui est en mer et puis toi ça peut te sortir de ta course, te faire rater une manœuvre, te faire chavirer, enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, donc il faut c'est aussi là, c'est aussi l'expérience, et comment t'as l'habitude de gérer les individus qui appellent leurs proches tous les jours. Ouais. Ouais, ça fais pas ça moi. Mais
chacun son.
J'envoie des petits mails ou des petits WhatsApp, mais des petits textes.
Ok. Comme je te l'ai dit, je me dépêche d'aller vers la fin parce que je sais que ton temps est limité sur Paris aujourd'hui.
Ça va.
Et on va publier effectivement cet épisode pas longtemps après le départ. Tu seras
sur l'eau. Moi, j'ai délivré beaucoup de secrets, donc ça tombe bien que ce soit après le départ.
Mais c'est pour ça, et puis c'est pour garder un peu les gens en haleine pendant la course. Qu'est-ce que tu vas faire justement ces quelques jours avant le départ? Si on se met, on fait un peu d'auto-hypnose, là on se met 3 jours avant le début de la course, quels vont être un peu les derniers réglages, les grandes étapes importantes, peut-être que les spectateurs ne voient pas J'ai un grand exemple à chaque fois que je donne, c'est, tu vois, ces sprinteurs qui vont dans la chambre d'appel avant de rentrer sur la piste. Et j'avais interviewé Jimmy Vico, du coup, qui est qui a le record français aujourd'hui, et qui explique, tu vois, cette chambre d'appel où il y a les 8 sprinteurs et t'as Usain Bolt qui chante, puis il y en a un autre qui donne des coups de poing dans le mur, et puis il y en a d'autres qui ferment les yeux et qui essayent de méditer, tu vois. Ça, on peut pas le voir à la télé. Ça se voit nulle part ailleurs. Mais du coup, si on se plonge avec toi sur les trois derniers jours avant la course, et qu'on ait une petite souris, qu'est-ce qui s'y passe, quelles vont être un peu les étapes clés un peu importantes?
Ben, en fait, déjà, y a une chose, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais tu ne gagnes pas la route du Rhum 3 jours avant le départ. Par contre, tu peux la perdre. Voilà. Tu peux la perdre parce que tu peux te faire submerger par l'émotion, par la tension qui monte, le stress qui monte. Et donc, ouais, il faut apprendre à gérer toute cette énergie. Il y a la météo. Donc, est-ce que tu vas aller au casse-pipe? Est-ce que, quelle va être un peu la tendance météorologique? Est-ce que tu vas aller à la guerre? Est-ce que tu vas aller dans la machine à laver? Est-ce que, enfin, tu vois. Ouais. Et donc, toutes ces phases-là, en fait, elle est importante parce qu'elle va, elle va monter ton niveau d'attention ou pas, ou ton niveau de stress. Donc faut savoir bien le gérer. Ouais. Donc faut rester. Alors moi je sais que j'ai des routines.
Ça te réussit plutôt bien.
Ouais, j'ai des routines. J'ai des routines de sport. J'ai mon préparateur physique qui m'accompagne vraiment jusqu'au bout.
Ouais.
Il sera même là dans le ZOD au moment du départ. Donc voilà, et même sûrement le préparateur mental qui sera pas loin non plus. Donc tout ça est organisé déjà depuis bien longtemps. On sait qu'il y aura un moment qui va être important le samedi, ça va être la sortie des écluses. Donc là, il y a un stress aussi important parce que il y a 200 mètres d'écluses à traverser où il faut pas abîmer le bateau. Donc voilà, il y a tout ça à bien gérer. Donc faut réussir à se mettre dans des situations d'isolement, de bulle, pouvoir peut-être souffler un peu, rentrer un peu en méditation, se reposer, pas trop se mêler à la foule et être surmené. Donc faut avoir une routine assez près. Faut pouvoir savoir s'isoler, quoi. Ouais. Donc il y a vraiment des temps où je suis là au village où je peux répondre à des choses, puis il y a des temps où je suis plus dispo, je coupe.
OK. Ouais.
Et si tu fais pas ça voilà, et puis il y a des temps où tu vas, en fait, tu vas commencer à regarder la météo et tu vas commencer à faire un travail de mental et de visualisation de ce qui va se passer. Et donc voilà, le départ, il va se passer ça, ok, frêle, on va être sur telle voile, on va être à telle vitesse, on sera toilé comme ça, le chariot il sera là, tac, dans le bateau, ça là. Donc là, la drisse de Jenac, après il y a un envoi de Jenac à faire, donc la drisse, faut pas que j'oublie, faut que je la mette là. Enfin, tu commences en fait à vraiment te faire ton roadbook dans ta tête de ce qui va se passer, et tu, comme un skieur qui va descendre la piste où il va refaire tous les virages, fermer les yeux, et ben nous on va être pareil, enfin moi en tous les cas je vais faire pareil, où je vais me concentrer, voilà, chaque étape, chaque truc, ok, et puis en plusieurs catégories, visualiser par rapport à la météo, ok, tac, il va se passer ça, là il faudra que je fasse ça, j'ai telle voile à envoyer, putain là il y a des virements de bord à faire, ok, tac, enfin voilà, tout un tas c'est de la technique pure, mais en tous les cas ça va te permettre d'aborder la situation le plus sereinement possible, parce que tu l'auras tellement répété, ouais, que finalement après ça va être, voilà, ton roadbook il est calé, et quoi qu'il arrive, bon, il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C,
ouais,
ok. Mais et c'est aussi une phase, en fait, 3 jours avant le départ, ton esprit est déjà parti, ton, ouais, corps est là, mais ton corps répond aux interviews et puis à tes partenaires, voilà, à ta famille qui est là, mais ton esprit il est déjà parti.
Ouais, bah écoute, merci beaucoup de rentrer un peu dans cette espèce de routine, parce que c'est difficile de comprendre ce que tu peux ressentir, tu vois, à ce moment-là, et je sais à quel point ça demande un certain niveau d'exigence, tu vois, de s'astreindre à ses routines et de se plonger dans cette visualisation futur. Donc merci infiniment. Puis on sent l'âme du compétiteur quand même, qui a envie de gagner et qui pense déjà très fort au résultat et à son roadbook. En plus, j'imagine que tous tes plans. Tu parles d'un plan A, plan B, plan C. J'imagine qu'il y en a, ça va jusqu'à Z et si ce n'est plus. Tout est dans la tête en plus, j'imagine, parce que il n'y a pas le temps pour lire ou pour se remémorer quelque chose une fois que t'es sur le bateau. Et...
Bah, si, parce que en fait, t'es toujours obligé de travailler sur la nave, sur ce qui va se passer avec le courant, avec le. Voilà, on est dans un milieu quand même qui est assez instable et donc du coup, bah, voilà, la météo, la force de vent peut peut-être être différente. Tu as plus de vent, plus de mer. Voilà, il faut adapter. Ça va être la situation de course aussi qui va te. Tu vas mettre l'accélérateur où? Est-ce que t'es déjà dernier, il faut mettre du charbon? Est-ce que t'es déjà en tête et là t'as un peu trop d'accélérateur, il faut calmer le jeu un peu? Enfin, il y a vraiment tout un tas de situations que tu ne maîtrises pas et qui vont venir s'ajouter à ce que t'as préparé. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est excitant, c'est que finalement une fois que t'as la boule au ventre un peu avant de partir, voilà, tu vas rentrer dans ta petite routine de départ et on va s'approcher du départ, on va aller faire ploter la ligne, on va faire nos petits réglages, on va faire nos essais, tout ça, clac. Puis au fur et à mesure, il n'y a plus y avoir personne à bord, ou tu vois, au fur et à mesure qu'on s'approche du départ, il y a moins en moins de monde à bord, et puis à 10-15 minutes du départ, tu te retrouves tout seul. Ouais. Et là, bah, faut faire feu. Et en général, la boule au ventre, elle est partie. Et t'es concentré, t'es dans ton truc et t'es plein gaz, quoi.
Bon, ouais. Ok. Écoute, génial. Merci pour ce partage. Aux auditeurs qui nous écoutent, envoyez un petit message justement à Erwan qui sera sur l'eau. Il les découvrira à son arrivée, mais en lui disant, c'était sympa d'avoir les trois derniers jours. J'ai mes trois petites dernières questions de la fin, vu que le temps file et qu'on est en train de remballer autour de nous. C'est assez marrant. Les trois dernières questions de la fin. La première, c'est de savoir si tu pouvais être une petite souris et de glisser un conseil à ton toi-même de 18 ans qui va faire ce premier projet Un jour un bateau, je crois que tu m'as dit.
Une école un bateau.
Et que tu pouvais te glisser un petit mot à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire?
Vas-y, fonce, quoi. Fais ce que t'aimes et n'hésite pas, quoi. Et lâche rien.
Bon. Ouais. Ok, trop bien. On sent que t'es épanoui, donc la réponse elle est alignée. L'avant-dernière question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un livre ou un film que si tu en avais les moyens, tu l'offrirais à tout le monde pour qu'on soit un peu plus heureux, un peu plus performant ou qu'on vive mieux. Qu'est-ce que t'aurais envie de recommander à la terre entière de lire ou de voir?
Il y a un livre qui m'a fait beaucoup avancer. C'est un livre de Pépin, sur l'échec.
Les vertus de l'échec de Charles Pépin.
Exactement. Voilà.
Okay.
Voilà.
Génial.
C'est arrivé très tard. Moi, j'ai pas forcément beaucoup de lectures mais en tous les cas ça m'a fait beaucoup avancer moi en tant qu'humain et en tant qu'homme et en tant qu'individu et je pense qu'il faut voilà, c'est le premier livre qui me vient à l'esprit.
Ouais, super bouquin, bien écrit, court, concis, avec beaucoup d'exemples d'athlètes, d'entrepreneurs.
Ouais, exactement.
Très variés, des chercheurs aussi, des scientifiques.
Et je pense qu'on a une autre interprétation de l'échec.
Bien sûr.
Voilà, donc ça fait avancer en tout cas.
Exactement. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages.
C'est ça.
Comme disent certains. Et la toute dernière question, comme je te le disais, ça pourrait être effectivement un passage de bar, mais c'est plutôt un passage de micro. Et c'est de savoir quel est le ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format comme ça où on peut parler un peu de prépa mentale, de performance, raconter un peu son histoire. Quelle histoire inspirante tu me recommandes?
Je vais te recommander. Alors je sais pas, ça va peut-être t'étonner, mais je vais te recommander Clarisse. J'ai eu la chance de pouvoir être sa doublure sur son dernier Vendée. Donc j'ai un peu, je l'ai un peu accompagnée aussi en prépa. Et là elle est, elle va mettre au monde un enfant. Mmh. Et avec Tanguy, le Turquet. Et va la voir, ouais. Ouais, parce que je pense, enfin, voilà, je pense qu'elle a une, elle a des belles histoires à raconter, et puis, voilà, je pense que ça fait du bien aussi un peu de fraîcheur. Je pense qu'on manque vraiment cruellement de femmes dans notre métier, et elle fait partie des gens iconiques qui vont faire rêver des jeunes filles et qui vont permettre aux jeunes filles de venir faire du bateau.
Clairement, elle le fait déjà super bien avec son super contenu. Sache qu'elle est passée au podcast, sur le podcast, mais au tout début.
Ah
non, et on était à distance, on s'est même pas vu en vrai, tu vois. Et à l'époque, mon outil permettait même pas de se voir en visio. Donc, écoute, c'est une très bonne proposition pour un petit comeback et que je puisse la rencontrer en vrai. Je pense que je vais la laisser tranquille en ce moment parce qu'elle, elle a plein de choses à faire. Mais en tout cas, c'est une très bonne reco et j'irai la voir de
Je pense que encore, elle a un peu de temps.
Ouais, c'est vrai.
Je pense que c'est peut-être le bon moment, en fait.
Allez, bah écoute, merci. En tout cas, merci infiniment, Erwan. J'espère que t'as passé un bon moment. Je te lâche. On est à 55 minutes. On est tenu dans les temps.
J'ai passé un bon moment. Merci à toi. Ça amène un peu de fraîcheur de changer les questions. Enfin, voilà, d'avoir des questions un peu pertinentes et donc, c'est frais. Et merci à tous tes auditeurs.
Eh ben, écoute, merci à toi. Et puis, je te dis bon vent.
Ça marche.
Comme on dit chez vous. Salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !